Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 28 mars, chez Robin Dorcy à Washington, accompagné de Morgane Guériac. Bonsoir Morgane.
Bonsoir Chérubin, bonsoir l'Afrique.
Au sommaire ce soir, des violences dans le sud de Bangui font au moins 20 morts et 11 blessés, dont certains grièvement.
C'est que hier nuit, des dizaines de gens participaient à une cérémonie funèbre à Fatima lorsqu'elles ont été attaquées.
Nous écouterons notre envoyé spécial Bagassi Koura. Épidémie d'Ebola en Guinée, la maladie a maintenant atteint la capitale, Conakry.
Les examens viennent d'être confirmés, un malade est décédé et les autres sont gardés dans un centre d'isolement de l'hôpital.
Reportage à suivre de Zakaria Kamara. Au Nigeria, les autorités partent en guerre contre le vol de l'or noir. Barack Obama est en visite en Arabie Saoudite sur fond de désaccord sur la Syrie et l'Iran. Afghanistan, une semaine avant la présidentielle, les talibans continuent de semer la terreur. Et ne manquez pas les sports et la musique en fin d'émission. Pour l'instant, le journal.
Graves incidents à Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Des personnes qui participaient à une cérémonie funèbre ont été prises à partie la nuit passée. Les assaillants non identifiés ont ouvert le feu et jeté des grenades dans le quartier Fatima, près de la Maison Jeune, dans le sud de Bangui. Au moins 20 personnes ont été tuées, selon le ministre de la Sécurité publique, Denis Wangao Kizimalé. Les autorités ont dénombré 11 blessés qui suivent des soins intensifs à l'hôpital communautaire. Le point avec Bagassi Koura.
Ce matin, la situation restait très tendue à Fatima, dans le sud de Bangui. De temps en temps, on entend des coups de feu, des badauds qui se mettent à courir. Des éléments anti-balaka très remontés sont également visibles. Ils seraient arrivés sur les lieux après l'intervention, dit-on, musclée de la MISCA burundaise. C'est que hier nuit, des dizaines de gens participaient à une cérémonie funèbre à Fatima lorsqu'elles ont été attaquées. Tamba Vianney, un résident de Fatima, raconte.
Vers 24h01, la place quoi, la Pocoti, lycée de
entre Fatima, minuit et 1h du matin, sur les lieux des funérailles, derrière le lycée de Fatima, brusquement, il y a eu des rafales suivies d'explosions de grenades. Sur place, il y a eu 6 morts. Les jeunes du quartier mécontents ont brûlé des pneus sur la voie.
L'avenue de la CEMAC qui relie le quartier kilomètre 5 à Pétévo est barricadée à plusieurs endroits par les riverains. La principale barrière se trouvant devant l'église de Fatima. Bangui, Bagassi Koura pour la Voix de l'Amérique.
Et toujours concernant la RCA, les musulmans de Bangui se sentent pris au piège. Tel est le constat de Human Rights Watch. L'insécurité ne leur permet ni de vivre à Bangui, ni de fuir vers d'autres régions, affirme l'organisation. Ils risquent d'être lynchés ou agressés dans la rue s'ils tentent de se rendre dans un autre quartier ou de quitter la capitale. Human Rights Watch recommande aux forces internationales de renforcer la sécurité, notamment aux alentours de kilomètre 5 et de PK12. Il faudrait aussi escorter ces musulmans qui décident de quitter la ville avec leurs biens. D'après l'ONG, l'Union européenne devrait honorer d'urgence sa promesse de renforcer les efforts de maintien de la paix en République centrafricaine.
Le virus Ebola continue de se propager en Guinée. 4 cas ont été signalés à Conakry. Ces personnes sont soupçonnées d'avoir été en contact avec le corps d'une victime. Jusqu'alors, l'Ebola n'avait pas frappé la capitale. Au total, la Guinée enregistre 103 cas suspects de fièvre hémorragique, dont 66 décès. Le virus Ebola est très contagieux. Il provoque de fortes fièvres, des vomissements, des diarrhées et des saignements. Les derniers détails avec notre correspondant en Guinée, Zakaria Kamara.
Selon le ministère guinéen de la Santé, Conakry enregistre les premiers cas de fièvre hémorragique à virus Ebola. Les malades ont été admis à l'hôpital Donka il y a 2 jours. Les examens viennent d'être confirmés, un malade est décédé et les autres sont gardés dans un centre d'isolement de l'hôpital. Les services sanitaires guinéens affirment que les 4 personnes encore vivantes ont été contaminées lors de l'inhumation des malades décédés. Ces cas mettent Conakry parmi les zones touchées par l'épidémie. Cas suspect du cancan s'est révélé négatif aux examens Ebola, précise un communiqué du ministère de la Santé. Depuis les 2 premiers cas suspects, les habitants de la capitale vivent dans une grande inquiétude. Les comportements ont vite changé. Nombreux sont ceux qui évitent de serrer la main. Dans plusieurs endroits, l'utilisation de gel antibactérien bactérien est une obligation. Conakry, Zakaria Camara pour la Voix de l'Amérique.
La 44e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, s'est ouverte ce matin à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Reportage d'Abdoul Razak Idrissa qui se trouve sur place à Yamoussoukro.
Deux années pendant lesquelles l'institution communautaire a eu pour chef le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara.
Tout au long de ces deux dernières années, nous avons pu circonscrire les crises au Mali et en Guinée-Bissau. Au plan économique, le TEC, le tarif extérieur commun, sera enfin mis en place à partir du 1er janvier 2015.
Alassane Ouattara est en fin de mandat. Il passera le témoin à un autre. Déjà, des noms circulent, John Mahama Dramani du Ghana, Ellen Johnson Sirleaf du Libéria ou encore Macky Sall du Sénégal. Le président de la commission de la CEDEAO a salué au nom des populations et de toutes les institutions de la CEDEAO l'action de Ouattara à la tête de l'institution communautaire, cadré Désiré Ouédraogo.
L'expression de notre immense gratitude pour l'apport significatif et stimulant de votre mandat à l'avancement de l'intégration régionale ouest-africaine.
Sur l'épidémie de la fièvre Ebola qui sévit dans la sous-région, la CEDEAO a lancé un appel à la communauté internationale afin qu'elle apporte son soutien dans la gestion de l'épidémie. Abdoul Razak Idrissa à Yamoussoukro pour la Voix de l'Amérique.
Retour sur le naufrage de samedi dernier sur le lac Albert en République démocratique du Congo. Le Haut Commissariat aux réfugiés est en train de prendre des mesures pour aider les victimes et leurs proches. Ils reçoivent de l'aide dans leur camp en Ouganda et un soutien psychologique leur est proposé. Le bateau plein de réfugiés a chaviré après avoir quitté l'Ouganda. Ces personnes tentaient de rentrer chez elles dans le Nord Kivu. 251 personnes sont mortes dans cette tragédie.
Washington, la Voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Russie doit retirer ses troupes de la frontière ukrainienne et commencer à négocier, c'est ce qu'a déclaré Barack Obama. Les manœuvres militaires de la Russie pourraient avoir pour simple objectif d'intimider l'Ukraine, reconnaît le président américain. De leur côté, les autorités ukrainiennes accusent la Russie de préparer une attaque. Kiev affirme que Moscou a massé près de 100 000 soldats le long de ses frontières. Les experts occidentaux estiment que ces troupes russes ne seraient que 30 000. Hier, l'ONU a adopté une résolution non contraignante pour dénoncer le rattachement de la Crimée à la Fédération russe. Une initiative que Moscou juge contre-productive, qui pourrait compliquer les efforts pour résoudre la crise.
Le président Obama est en Arabie Saoudite pour des entretiens avec le roi Abdallah sur fond de divergences sur les dossiers syriens et iraniens et d'autres sujets chauds de la région. Le point avec Michel Joseph.
Le président Obama rencontre le roi Abdallah. Leur réunion dans la banlieue de Riyad portera surtout sur les tensions occasionnées par le conflit en Syrie et le programme nucléaire iranien. L'Arabie Saoudite a toujours critiqué la réticence des États-Unis à fournir des armes aux rebelles syriens. Aussi, Riyad avait exprimé ses inquiétudes sur la tentative de dialogue que l'administration Obama veut engager avec Téhéran, son principal rival, accusé de vouloir se doter de la bombe nucléaire. Monsieur Obama et le roi Abdallah aborderont aussi la situation en Égypte. Washington avait dénoncé le renversement du premier président élu en Égypte, alors que le régime saoudien a apporté un soutien financier aux militaires égyptiens qui ont chassé les frères musulmans. Quant au blocage des discussions entre Israéliens et Palestiniens, le secrétaire d'État américain John Kerry viendra les rejoindre en Arabie Saoudite. Le département d'État a annoncé qu'il a eu mercredi des discussions positives avec le président palestinien Mahmoud Abbas. Mais réunis au Qatar en début de semaine, les leaders de la Ligue arabe ont réaffirmé haut et fort qu'ils ne vont jamais reconnaître Israël comme État juif.
Les recherches se poursuivent pour tenter de trouver l'avion disparu de Malaysia Airlines. Des avions australiens ont repéré des objets dans l'océan Indien à environ 1850 km des côtes australiennes. Au cours des derniers jours, des images satellites y avaient déjà révélé la présence d'objets flottants, mais les navires ne seront pas en mesure d'atteindre la zone avant demain samedi.
Attaque des talibans à Kaboul. Cette fois, c'est le siège de l'ONG Roots for Peace qui a été visé. 6 personnes s'y trouvaient au moment de l'attaque, mais l'une d'entre elles a réussi à s'échapper, selon les autorités locales. 3 Afghans ont été blessés. Ces nouvelles violences interviennent à une semaine seulement du premier tour de la présidentielle, le 5 avril, qui désignera le successeur de Hamid Karzai. Les talibans ont promis de perturber ce scrutin considéré comme essentiel pour la stabilité de l'Afghanistan, après le départ des troupes de combat international à la fin de cette année.
À Hong Kong, un groupe de militants pro-démocratie, y compris ses membres du Parlement, ont entamé une grève de la faim pour réclamer le droit de vote pour tous dans l'ancienne colonie britannique. Les 16 grévistes ont promis de n'accepter que de l'eau aussi longtemps que possible. Le mouvement pro-démocratie à Hong Kong exige le droit de vote pour tous les citoyens dans un scrutin ouvert à plusieurs candidats. Il a menacé d'organiser des protestations massives, y compris des grèves de faim, en juin prochain. Voilà pour le journal. 18h40 en temps universel, 14h40 ici à Washington. Chez Robin Dorsil, en compagnie de Morgane Guériac, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. Crise en Centrafrique, le Comité international de la Croix-Rouge se dit très inquiet face aux graves violations du droit international humanitaire dans le pays.
Peter Maurer, président du CICR, a indiqué aujourd'hui au cours d'une conférence de presse à Bangui que des violences sur des populations civiles sont inacceptables. On fait le point avec Idriss Fall.
Après une visite de 3 jours en Centrafrique, Peter Maurer a indiqué que la situation humanitaire est déplorable. Le président du CICR se dit très inquiet par rapport aux graves violations du droit international humanitaire dans le pays.
Je pense qu'il est important que tout acteur armé dans ce pays comprenne que il y a redevabilité pour ces actions et que l'attaque aux populations civiles, aux femmes, aux enfants, aux hommes non armés est illégale et ne peut pas être tolérée. Pour élargir la compréhension du droit international humanitaire, le CICR s'engage au dialogue avec tout acteur armé dans ce pays pour assurer un respect plus profond du droit international humanitaire. On est très soucieux et très inquiets.
Face à la persistance de la crise et les besoins humanitaires sans cesse croissants, le président du CICR promet une rallonge budgétaire de son institution afin d'être plus présente sur le terrain.
Je vais proposer la semaine prochaine une rallonge budgétaire importante de 50 à 60% qui devrait nous permettre d'être plus présents dans le pays et d'élargir nos activités santé, nourriture, eau et sanitation davantage dans le pays. On était très conscients que nous ne pouvons pas couvrir tous les besoins, mais on fait du mieux pour agrandir et pour répondre aux besoins qui sont croissants.
Notons que de décembre 2013 à mars 2014, le CICR a effectué plus de 560 opérations chirurgicales pour des blessures graves suite aux violences à Bangui. Il a soigné au moins 7200 personnes dans son centre de santé sur le site des déplacés de Saint-Sauveur et contribué à la prise en charge sanitaire de plus de 7000 personnes à l'intérieur du pays.
Les autorités nigérianes ont détruit ces derniers mois des centaines de raffineries de pétrole illégales dans la région du delta du Niger. L'opération est critiquée par certains activistes qui appellent à la légalisation de ces raffineries. Mais d'autres estiment que légitimer le vol de pétrole ne fera qu'aggraver les pénuries chroniques de carburant, de même que l'impunité générale au Nigeria. Jacques Aristide.
Le delta du Niger, riche en pétrole mais est pauvre et très pollué, ses habitants qui vivent de l'agriculture et de la pêche pointent du doigt les compagnies pétrolières. Certains d'entre eux se sont tournés vers le vol de l'or noir qu'ils prélèvent des oléoducs pour un marché noir lucratif. Le gouvernement nigérian est pris entre deux feux. Édouard Ofomore, avocat et ancien commissaire de police. Nous apprenons chaque jour qui passe que les autorités ont détruit des raffineries, mais ces raffineries repoussent après leur destruction. Pourquoi cela? Je vous laisse tirer votre conclusion. Pour l'homme de loi, il n'y a pas 10 000 solutions. Il faut légaliser et réglementer la vente noire du pétrole. N'est-ce pas là un cercle vicieux? Il ne faut plus se voiler la face. La solution passe par la légalisation, par des permis en bonne et due forme, ce qui permettrait même de renflouer les caisses de l'État. Selon lui, les opérateurs de petites raffineries pourraient ainsi acheter du pétrole brut de l'État. Les critiques de ce plan se demandent pourquoi les contrebandiers feraient l'acquisition légale de pétrole brut, alors même qu'ils peuvent se le procurer gratuitement à partir des oléoducs. D'ailleurs, le gouvernement affirme que les vols de pétrole coûtent jusqu'à 1 milliard de dollars par mois à l'État. Wole Olaoye, un chroniqueur de journal nigérian The Daily Trust.
Stealing is wrong.
C'est mal de voler. Ces gars perforent les oléoducs, volent le pétrole et le raffinent sur place. Ils ne sont pas du tout préoccupés par les effets néfastes sur l'environnement. Pas du tout. Ils causent des dommages incalculables à l'environnement. Ils volent les ressources de l'État. Pour ce journaliste, toute tentative pour régulariser le commerce du pétrole sur le marché noir contribuerait à un autre problème épineux au Nigeria, c'est-à-dire l'impunité. De nombreux crimes restent impunis dans le pays, ce qui alimente l'insurrection dans le nord et l'instabilité dans le sud. À Wari, une ville pétrolifère dans le delta du Niger, les habitants affirment que ce sont les compagnies pétrolières qui sont les vrais voleurs. Elles sont accusées de faire main basse sur les ressources en laissant derrière elles des terres et des eaux polluées. Dans un pays premier producteur de pétrole du continent, les voitures manquent souvent de carburant et les pannes d'électricité sont devenues le lot quotidien des Nigérians.
Écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique chez Robin Dorsil en compagnie de Morgane Guiriac. Au Maroc, des centaines d'immigrants subsahariens ont une nouvelle fois tenté en vain de franchir la frontière séparant ce pays de la ville enclave espagnole de Melilla. Des milliers de jeunes Africains tentent désespérément de rejoindre l'Europe. Idriss Fall a fait le point avec Jamal Berraoui, un militant des droits de l'homme à Casablanca.
Le Maroc était un pays de transit des subsahariens. Viennent au Maroc pour essayer de traverser vers l'Europe. Que le Maroc ont vu d'accord qu'il a passé avec l'Union européenne, il surveille ses frontières. Le cas de figure le plus répandu, c'est que ce sont des gens qui, en arrivant au Maroc, n'ont plus assez d'argent pour payer les passeurs. Et le Maroc a fini par adopter une législation qui est très favorable à ces gens pour essayer de leur donner des papiers, pour essayer de les aider à s'installer au Maroc. C'est ici qu'ils sont venus de Sierra Leone, du Sénégal, du Niger, du Nigeria, et qui sont coincés au Maroc. C'est des dizaines de milliers de personnes. Et le Maroc a pris une décision, c'est de leur offrir l'hospitalité marocaine, c'est-à-dire de leur donner des papiers pour qu'ils soient des résidents au Maroc et au lieu de chercher à passer en Europe, qu'ils essaient de trouver une vie au Maroc. À ma connaissance, il y a déjà plus de 20 000 personnes qui ont pris les papiers au Maroc.
Mais cela n'a pas empêché des jeunes de continuer à aller à l'assaut de Ceuta et Melilla.
Parce qu'il y a une réglementation européenne et espagnole donc, qui fait que dès qu'ils sont à Ceuta ou Melilla, ils leur donnent un papier qui leur permet pendant un an de ne pas avoir de problème. Avec ce papier, ils traversent et ils disparaissent. Et les Espagnols disent que sur 1000, il y en a 950 qui disparaissent. C'est-à-dire que pour eux, ils sont à prendre tous les risques juste pour être en leader. Une fois qu'ils sont en leader, ils ont réussi leur rêve européen. Il y a eu plusieurs tentatives collectives. Les Espagnols, l'autre jour, ont tiré sur les gens. C'est des situations très dures à vivre.
D'autant que le rêve européen se tourne souvent au cauchemar une fois qu'ils arrivent sur place.
Le rêve européen tourne au cauchemar. Maintenant, nous ne sommes même pas face aux boat people, nous ne sommes même pas face aux gens qui meurent dans les bateaux. Nous sommes face à des gens qui sont sur le territoire marocain, qui ont juste une frontière à traverser. Dès qu'ils traversent la frontière, dès qu'ils sont à Ceuta ou qu'ils sont à Melilla, ils sont en droit de demander un papier de réfugié. Et ce papier de réfugié leur donne une année de répit, et avec ça, ils vont en Europe, et après ils disparaissent, après ils deviennent illégaux. Mais c'est un vrai problème humain, c'est un vrai drame humain.
Jamal Berraoui, un militant des droits de l'homme à Casablanca.
Le Parlement kényan a adopté un projet de loi controversé qui légalise la polygamie. Les femmes députées, les organisations féminines et le Conseil national des églises du Kenya contestent le texte et appellent le président Uhuru Kenyatta à ne pas le signer. Nathalie Barge nous en parle.
Suite à la décision la semaine dernière, plusieurs femmes députées ont protesté et quitté l'hémicycle, accusant les hommes du Parlement kényan de sexisme et de propos irrespectueux vis-à-vis des femmes lors de l'audience. Pour une réaction sur ce projet de loi, j'ai contacté à Genève Karine Jabre, responsable du programme pour les femmes à l'Union interparlementaire.
Ce qui se passe maintenant au Kenya est un recul en termes d'égalité entre hommes et femmes. Et je trouve ça aussi dommage et un peu frustrant qu'un Parlement qui doit être représentatif n'a pas pu prendre en compte l'ensemble des intérêts de sa population. Et du fait, il n'y a que 19% de femmes au Parlement du Kenya. Et il est très important que le droit soit plus sage, si je peux me permettre, que les pratiques coutumières. Et je sais que c'est difficile, mais parfois il faut être, je dirais, plus courageux et plus sage pour aller de l'avant et changer les mentalités. Et le droit sert à ça. Donc c'est un peu dommage pour le Kenya que le droit n'ait pas servi justement à renforcer l'égalité entre hommes et femmes, mais plutôt à ancrer des traditions qui sont inégalitaires. Mais la loi a été adoptée par le Parlement, elle doit encore être promulguée par le président. Et peut-être que là, il y a encore une chance qu'elle ne passe pas et qu'elle soit renvoyée au Parlement.
C'était Karine Jabre de l'Union interparlementaire. À savoir que le projet de loi donnait à la femme le droit de veto sur le choix de son mari, mais les hommes du Parlement kényan ont fait adopter un texte supprimant cette clause. Voici la réaction d'une élève en sciences islamiques à Washington, Mariam Bréant.
Dans le Coran, ce qui est la charia divine, il est dit que les hommes peuvent se marier jusqu'à 4 femmes, mais avec le consentement de leur première femme. Et s'ils pouvaient aimer ces 4 femmes de la même manière, ce qui est impossible, ce qui vient à annuler la polygamie dans la religion musulmane. Mais la polygamie a existé avant même la religion musulmane. Le roi Salomon, par exemple, il était marié à 300 femmes. Le prophète Ibrahim, il avait 2 femmes. Donc on ne peut pas dire que la polygamie est typiquement islamique. Au contraire, le prophète Mohammed, c'était un avocat du droit de la femme. Comme il ne pouvait pas complètement annuler la polygamie, il a dit un musulman qui veut se marier peut se marier jusqu'à 4 femmes avec le consentement de sa femme, la première femme, et s'il aime ces femmes-là également de la même façon, sinon c'est pas la peine.
Mariam Bréant est élève en sciences islamiques ici à Washington. Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique, place au sport et on commence avec du foot, Gabi.
Oui, Morgan, on connaîtra dimanche soir le nom des 8 derniers postulants à la 50e Ligue des Champions d'Afrique, championnat baptisé Ligue des Champions Orange. À l'issue des 8e de finale aller du week-end dernier, rien n'est encore joué. 6 rencontres se sont en effet terminées sur les scores serrés. Seul l'ASV Club de Kinshasa et le CS Faxien se sont mis en position favorable. À quelques jours du match retour contre le Coton Sport de Garoua, l'entente sportive de Sétif a failli rater l'avion pour le Cameroun. Le départ pour Garoua était prévu hier jeudi à 4h heure locale, mais les joueurs ont refusé au dernier moment de se rendre à Garoua, à moins de recevoir leurs arriérés de salaire et primes. La veille, il faut le rappeler, ils avaient déjà refusé de participer à l'entraînement. Le moral n'est donc pas au beau fixe. On attend de voir ce qui se passera au Cameroun. À l'aller dimanche, et Sétif avait gagné 1-0. Dans la Liga, coup de chance peut-être, mais du talent certainement chez Seydou Keïta. À 34 ans, il a encore de beaux restes, pensent certains, et une belle pointe de vitesse. Le Malien l'a démontré hier jeudi en ouvrant le score après, écoutez bien, 8 secondes de jeu Morgan contre Almeria lors de la 30e journée de la Liga. Malheureusement, il est sorti un peu après et le match s'est terminé sur un score nul de partout. Le troisième but le plus rapide de l'histoire de toute la Ligue espagnole. Alors qu'ils avaient le coup d'envoi, les coéquipiers de Mané ont fait 2 passes en retrait, la troisième à destination du gardien, et malheureusement, la passe a été interceptée par Keïta qui a trompé Esteban du plat du pied. Et on peut parler basket ?
Ben oui, allez-y.
Tu aimes le basket ?
Oh, j'adore le basket.
Quelques résultats de la NBA. Le championnat de basket professionnel des États-Unis. Hier soir, Portland a pris le dessus sur Atlanta par 185. Victoire fleuve de Houston, 120 à 98 face à Philadelphie. Score serré entre Milwaukee et les Lakers de Los Angeles, 108 à 105 en faveur de l'équipe du Wisconsin. L'autre club de LA, les Clippers, a été plus chanceux, 109 à 103 face à Dallas. Ce soir, 12 rencontres sont prévues. Mentionnons, un peu par chauvinisme, il faut l'admettre, et pour plaire à Lionel Gaïma, que Washington joue contre le leader de l'Est, Indiana Pacers. Et chez les universitaires, on joue les 8e de finale, le Sweet 16, comme on dit ici. Déjà, on connaît 4 qualifiés, Arizona, Florida, Wisconsin et Dayton. Le reste sera déterminé ce soir. Voilà pour les sports.
Nous accueillons Roger Muntou pour notre page musicale. Salut Roger.
Salut Morgane. Alors Morgane, Idina Menzel est originaire de Queens, New York. Elle est actrice, chanteuse et compositrice. Elle est mariée à l'acteur Taye Diggs depuis 2007, avec qui elle a eu un fils. Tu connais l'acteur Morgane?
Non.
Bah, j'ai la photo ici pour toi, tu vois. Hein? Malheureusement, on est à la radio, on ne peut pas. Hein? Mais écoute, sa chanson, la chanson de Idina Menzel, Let's Go, est numéro 5, number 5, numéro 5 du Billboard Top 10 cette semaine.
The snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they. It's funny how some distance makes everything seem small. And the fears that once controlled me can't get to me at all. It's time to see what I can do to test the limits and break through. No light, no road, no rules for me.
De Menzel était thérapeute et son père était vendeur de pyjamas. Mmh. Ses grands-parents ont émigré de Russie et de pays du nord de l'Europe.
Exactement, Morgane. La chanteuse a passé une période d'adolescence difficile. Alors qu'elle est âgée de 15 ans, ses parents divorcent. Afin de pouvoir les aider financièrement, elle chante lors de bar mitzvah et mariage à Long Island, New York. Un travail qu'elle poursuit même pendant ses études à l'université de New York. Elle obtiendra alors un diplôme d'art dramatique.
Into the ground, my soul is spiraling in frozen fractals all around, and one thought crystallizes like an icy blast. I'm never going back, the past is in the
Voilà, c'était Idina Menzel, Let's Go. Merci Roger.
De rien Morgane.
Roger Muntou que vous retrouvez tous les soirs à 20h temps universel dans le RM Show.
Vous êtes sur La Voix de l'Amérique. Merci de nous avoir choisis. Ici s'achève Le Monde aujourd'hui. Michel Joseph a dirigé la mise en onde. Nous avions un tandem à la console technique, Dryden et Zinab. Et laissez-nous vos messages sur fr@voanews.com. Ici, Chérubin Dorcil
et Morgane Guériec.
On se retrouve dans une demi-heure.